Ben non.
Je suis pas un spécialiste, mais si tu t'es en bac S, ça.
Parce que, hey, parce que Raph et moi, quand on se met côte à côte, on a bac moins 8. Hein. C'est ouais, ça qu'il faut que tu comprennes.
C'est vrai.
Oh, non, c'est
j'ai eu à 23 ans, Gilles.
Il en a 22.
Il y a moins. Là, c'est comme si tu dis, tu enlèves la molécule, je schématise, hein, t'enlèves la molécule principale et tu transformes, si tu enlèves, vu que t'es composé de plein de molécules, si t'enlèves une, tu transformes forcément la structure de la chose. C'est plus le même élément. Enfin, c'est plus la même chose. Je parlais de projet des noyaux. Si tu modifies la structure de la chose, tu modifies le groupe.
Bah oui, tu modifies tout. Tu touches un aspect de la chose, tu modifies l'ensemble de la chose.
Mais je suis pas, on peut me fumer sur cette question-là.
On va t'envoyer l'article.
L'idée, c'est comme si, tu vois, le miracle de Cana, l'eau qui se transforme en vin, bah pour eux, c'est ça, quoi. Ça se transforme, mais ça reste pareil.
Oh, oh. En fait, si on l'applique au miracle de Cana, si on l'applique au miracle de Cana, ça veut dire que celui qui aurait bu le vin n'aurait jamais dû reconnaître que c'était du vin.
Voilà.
Concrètement, si tu fais l'application de ce qui s'est passé au miracle de Cana, ils auraient jamais dû se rendre compte que c'était du vin, ils auraient dû avoir l'impression de boire de l'eau, mais c'était du vin.
Or, ils ont goûté le meilleur vin qui puisse.
Voilà, ils ont goûté le meilleur vin. Ouais. Ils connaissaient pas le Saint-Émilion, ils ont eu Saint-Émilion, tu vois. Donc c'est énorme.
La cuvée Blanc de Lille.
Est-ce qu'il y a une autre question sur les cathos, sur la loi, sur ce que Raphaël nous a montré tout à l'heure? Ou c'est une question qui n'a rien à voir? Même si vous avez vu des musulmans, allez-y, on a Belka avec nous ce soir, c'est un ancien musulman, il pourra nous éclairer. On ne cache pas la lumière sous le boisseau, s'il vous plaît. Oui. Lève la voix parce qu'on n'entend pas en fait.
Alors, donc c'est la même question dont on a parlé hier soir. Donc c'est que pour, en fait, il y a plusieurs questions. C'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un mal pour qu'il y ait un bien, et on ne peut pas savoir ce qui est bien si on ne sait pas ce qui est mal. D'accord. En fait, il faut que je puisse écrire en même temps parce que moi je suis. Est-ce que quelqu'un a un stylo sur toi? Est-ce que c'est la question de la nécessité? C'est ça? Donc, que le mal est nécessaire vraiment pour que tu connaisses le bien ou pour qu'il existe? Pour que le... D'accord. En fait, si c'est une question, il y a deux choses qui sont, je pense, vraiment différentes. Tu me diras ce que tu en penses. Si c'est pour que ça existe, on est dans une notion de causalité. C'est que tu as besoin de ça pour cause. Tu vois, il y a un lien dans l'existence. Tu as besoin que ça existe pour que ça engendre, d'une certaine manière. Dire que le mal engendre le bien, ça n'a pas de sens, tout simplement parce qu'on est dans deux. Je pense que l'erreur, elle est dans le fait que les faits contredisent ça, c'est que le bien peut produire du bien, mais le mal, du mal ne ressort pas souvent un bien, objectivement. Exemple, tu as un cancer. Qu'est-ce que ça va produire de bien et de bénéfique dans ta vie sur le plan de ta santé? Voilà. En revanche, le médicament, qui sera un bien, je schématise, lui pourrait contrer ça. Il y a un antagonisme. Il y a des notions opposées, non pas qui découlent l'une de l'autre. Ça, c'est d'un premier truc. Et c'est, je pense, et pour moi encore, c'est vraiment une question qui symbolise la chute, c'est que l'homme a la notion de bien et de mal, mais dans son esprit, c'est totalement confus. La loi, j'ai beaucoup l'image que nous a donné Alex, de la ruine, c'est que c'est complètement en ruine, c'est désordonné, et on a du mal à faire le bien, à faire le tri entre les deux. Les notions sont là, mais c'est souvent flou et entremêlé et pas clair. Après, la question de la définition, c'est une logique de définir une chose par son contraire. Et ça, quelque part, la loi et la transgression de la loi, pour moi, on peut se servir de ces éléments-là. Si tu dis que le péché, c'est transgresser la loi, alors nécessairement, ce qui n'est pas péché, c'est obéir à la loi. Tu fais des groupes et des sous-groupes. Tu dissocies vraiment les choses. Je suis peut-être trop théorique dans mes réponses.
Je pense que je comprends. Mais il y a une question de logique aussi. Tu vois, il y a une dimension, si tu fonctionnes par analogie. On ne peut pas connaître la pureté si on n'a pas connu l'impureté. Il y a un raisonnement circulaire qui se mord la queue, en fait. Parce que la pureté est l'absence d'impureté. Donc, par conséquent, si tu veux, on ne peut pas connaître le bonheur parfait s'il n'y a pas de souffrance. C'est un peu dire deux phrases contradictoires. Ok, ça marche dans des choses qui ne sont pas des valeurs absolues. Ok, on peut pas connaître un bon film si on n'a jamais vu un navet. Et encore, vous savez très bien que dire des phrases comme ça veut tout et rien dire, quoi. Mais je veux dire, si t'as un verre d'eau pure dans lequel t'as mis une poussière, tu sais très bien que c'est ton verre d'eau, il est complètement impur.
C'est comme si tu dis que t'as besoin du cancer pour connaître être en bonne santé. Ça n'a pas de sens.
Limite, c'est la culture, parce qu'il y a des exemples qui ont été sortis hier, que j'ai bien compris, que la caresse, ça fait bien. Enfin, c'est un point que.
Mais t'en auras pas, hein. juste Nicolas Blocher qui vérifie tout ce que je lui dis et qui fait bien, d'ailleurs vous devriez tous vérifier ce que je dis, m'a fait remarquer à juste titre que Clément n'est pas mentionné dans Romains 16 mais dans Philippiens 4:3. Merci Nicolas Blocher. Tu paieras pour ça. C'est bon Christella, on te donne des éléments? Ouais, je pense. Mais de toute façon, je pense dans des raisonnements comme ça, c'est toujours comme a dit Raph, c'est une manière d'esquiver le truc, tu vois. Quelqu'un qui raisonne par des raisonnements, par des phrases qui veulent rien dire comme ça. Enfin, c'est à un moment, faut le mettre devant des choses analogues et lui montrer que c'est absurde de raisonner comme ça. Son raisonnement est absurde en lui-même.
Demander à la personne d'illustrer.
Ouais.
Ce qu'elle veut dire, et je crois qu'elle aura beaucoup de mal à faire.
Est-ce que vous avez un exemple?
Ouais.
Parle plus fort, Christella.
Par exemple, moi je suis blanc, je suis noir, quand je
On a nommé, c'est très simple. On l'a défini en nommant la couleur blanche blanche. Et si la couleur noire n'existe pas, on aurait pu attribuer à d'autres couleurs d'autres noms. Quoi. Je veux dire, on a attribué un nom de couleur. Quoi. C'est un raisonnement circulaire qui se mord la queue, quoi.
C'est comme si t'as un... Écoute, imagine-toi, la voiture n'existe pas, la moto n'existe pas. Du coup, si t'inventes une voiture et que tu l'appelles voiture, en fait, tu pourrais pas, si, du moment que t'as pas inventé une moto pour l'appeler moto, et faire la différence entre les deux.
T'aurais dû lui dire comme ça. Écoutez, monsieur, je pense que vous êtes vraiment stupide. Question suivante. Clément de Rome. De Philippe. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit?
C'est juste pour la race. Par rapport à la gauche et la montagne, moi ce qu'on fait, c'est qu'à travers la croix, les diverses choses, notamment la sanctification, l'édification, l'expression, etc., en fonction de la personne qui est en face de nous, on va avoir vraiment un besoin, parce que tu l'as dit, tu vas avoir accès, on va dire, de se rapprocher de la mentale. Sur le fait que d'être en Christ dans une bonne famille, ça fait finalement un genre de pont en fait, qu'on va amener pour amener l'évangile. Après, ça ne suffit pas de prêcher l'évangile par la suite.
Alors, que je sois bien clair, par exemple, ce que nous a présenté Alex, pour moi, on en retrouve la question de la transgression de la loi. Je crois qu'on la retrouve dans tout, par exemple, les entretiens de Jésus. Où l'incrédulité, le rapport à la loi est toujours présent parce que le péché a un rapport directement avec la loi puisqu'il est transgression de la loi. Donc si tu n'as pas la notion de loi, tu n'as pas la notion de péché. La loi nous a été donnée pour révéler le péché. D'accord? S'il n'y a rien à transgresser, il n'y a pas de transgression. Je pourrais le reformuler comme ça. Voilà. Voilà. Ce que tu vois, par exemple, si tu me racontes le récit de ta conversion, si je te raconte le mien, si je te raconte celui de Guillaume, celui de chacun d'entre nous, il y aura des éléments qui sont indispensables. La repentance, la foi en la mort et la résurrection de Christ, la foi en son sang qui purifie notre péché, la croix qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Enfin voilà, tu vois, il y a ces éléments-là. Mais, comme un enfant, quand il naît, n'a pas conscience qu'il est, quand tu es né, tu n'avais pas nécessairement conscience que tu étais le fruit de deux lignées. Tu n'avais pas conscience de l'existence de la lune. Tu n'avais pas conscience de tout plein de choses et ta compréhension est venue petit à petit. Je fais cette analogie pour dire que la compréhension et la conscience qui est éclairée par l'évangile chez certaines personnes, les étapes vont pas nécessairement venir dans le même ordre. Et il y a des personnes de par leur vécu qui vont être touchées de prime abord par une des vérités de l'évangile et une autre par une autre. Et du coup, d'avoir ce à quoi je voulais vous sensibiliser, c'était de pas annoncer l'évangile comme à une machine qui l'annoncerait à une autre machine. Tout simplement. C'est ça, rappeler toutes ces richesses-là. Et il y a des personnes, moi quand j'ai présenté la réalité de l'Église à cette dame hier, que je lui ai dit que c'était des personnes, l'Église c'était des personnes qui avaient toutes la même foi, qui suivaient le même père de famille, que c'était une famille, avec un père qui prenait soin de sa famille et qui demandait aux membres de cette famille de prendre soin les uns des autres. Je lui présente une nouvelle humanité. Et c'était une des conséquences de l'évangile. Et je ne lui ai pas présenté que ça. Je lui ai fait toutes les nuits. Mais j'ai pu discuter avec elle 2 heures. Je suis en chasse, donc je lui ai présenté tout. Mais ça a été vraiment quelque chose, parce que cette dame avait un arrière-plan où elle a été marquée par le christianisme charismatique au Bénin, où elle a vu des exorcismes à gogo à cause de son fils qui était autiste, qui était mélangé avec de l'animisme, de la sorcellerie, etc. Elle a vu sa mère qui a été abandonnée par l'Église catholique,
quand je lui présente une perspective biblique de l'Église, ça a fait écho à son cœur de façon très forte. Et ça l'a touché, et elle va venir ici un TK. Donc, c'est une richesse, en plus. C'est un point de contact. Tu dois avoir, dans ce que je disais en introduction, c'est qu'il y a des éléments que tu ne peux pas te permettre de ne pas parler. Moi, je connais des personnes avec qui je travaille de près, j'ai pas trop le choix, mais qui ne veulent pas prêcher la repentance. Veulent prêcher uniquement, comment ils disent? Ils parlent du shalom de Dieu, que Dieu veut une paix, qu'on soit en paix, mais comment tu veux avoir la paix sans pardon? Et ils veulent aussi, à tout prix, parler de l'expérience de Dieu. Ça, c'est culture postmoderne, immanence. Il faut inviter les gens à faire l'expérience de Dieu. Oui, la première expérience, moi c'est ce que je lui ai répondu, la première expérience que Dieu veut que tu fasses, c'est la repentance. C'est la première expérience relationnelle. Donc si pour toi, tu me dis expérience de Dieu, oui, et l'expérience de Dieu ne se limite pas à la repentance, et elle est beaucoup plus riche que ça, heureusement. Mais si tu parles juste d'expérience mystique avec Dieu, stop. Ah, moi, je m'arrête.
Je me souviens, il y a quelques années, je faisais du porte-à-porte avec une dame, et on faisait on faisait du porte-à-porte dans une cité, on cognait aux portes, et enfin moi, vous commencez à me connaître, je m'appelle Guillaume Bourrin, je porte bien mon nom. J'arrive à une porte, la porte elle s'ouvre, on discute 5 minutes, au bout d'un moment, on est toujours en train de parler du châtiment éternel, du péché, de la mort, enfin voilà, quoi, je veux dire, on a d'autres portes à voir, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'étais en train de parler avec ces personnes, et à un moment, on avait une excellente conversation avec un gars, et je sentais le gars, il avait un intérêt pour le message, il acquiesçait complètement, et la dame qui était avec moi a été scandalisée à chaque porte, mais particulièrement à celle-là, qu'on puisse discuter sur ce thème-là. Et elle a même dit au contact, mais monsieur, il faut pas vous cacher derrière la loi, pensez à l'amour de Jésus. Vous voyez l'amour de Jésus. Elle était même scandalisée que le contact lui-même soit ébranlé même par la notion de son propre péché. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que cette dame a une vision des alliances où une alliance remplace l'autre. Ça m'a vraiment frappé, ça. Pour elle, la nouvelle alliance a remplacé l'ancienne, et du coup, aujourd'hui, on est dans la loi de l'amour. Qui dit loi de l'amour dit, faut plus se reprendre. Et donc par conséquent, quand on invite quelqu'un à rencontrer Jésus, on l'invite à rencontrer l'amour de Jésus parce que c'est ça qui doit toucher. Donc c'est un peu cette histoire de shalom ou de shalfam de Dieu là. Mais voilà. La loi est un composant central de l'évangile. Vous ne pouvez pas le dissocier. Jésus est venu pour accomplir la loi, et sans la loi, vous vous privez d'un sacré auxiliaire, comme disait Spurgeon, ou de son arme la plus puissante. Vous ne pouvez pas amener un pécheur à la repentance si c'est pas qu'il est pécheur.
Et si tu regardes la différence, par exemple, entre le jeune homme riche et l'autre, par exemple, la Samaritaine, regardons comment Jésus les aborde et les éléments que tu vas retrouver dedans quand tu vas analyser le texte. On verra qu'il y aura ces éléments-là de transgression de la loi qui sont là. Mais il ne les présente pas du tout de la même manière. Et à cette femme, il a compris l'insatisfaction vraiment qu'elle avait, et il lui apporte une réponse qui est extraordinaire. Et pareil, Nicodème, les éléments sont là, mais ils sont pris par des portes différentes.
Ce qui est assez frappant, c'est que même dans les discours des Actes, quand vous regardez bien, presque partout, il commence avec la même stratégie, il va dans la synagogue. Arrivé à Athènes dans Acte 17, il y a un contexte un peu particulier, il va à la synagogue, ça on le sait, mais c'est indiqué courtement, l'auteur du livre des Actes, Luc probablement, commence à relater une histoire qui s'est passée sur la place publique, où très rapidement il a été amené sur l'Aréopage, qui était la place à Athènes, et là il discute avec des philosophes stoïciens, épicuriens, et une foule qui avait autour, probablement les athées de l'époque, quoi, en gros, si je puis me permettre, les premiers postmodernes, quoi, les antépostmodernes. Mais à ce moment-là, ce qui est frappant, c'est qu'il utilise l'histoire d'un dieu inconnu, qui en elle-même est une passerelle très intéressante, ça vaudrait le coup de l'étudier, cette histoire. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, sans citer la loi, il tient compte de Romains 2.15, la loi dans le cœur, et il leur dit, Dieu annonce maintenant à tout homme en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Même à des personnes qui n'avaient jamais entendu la loi de leur vie, pour qui c'était un concept probablement qui était étranger, il est en train de leur parler de repentance. Il leur montre combien la sainteté de Dieu les appelle naturellement à cela, et que c'est une conséquence première de la régénération, comme l'a dit Raph. Une des premières choses que la régénération produit chez quelqu'un, c'est la foi et la repentance.
En fait, c'est que
Christ n'est pas mort pour des problèmes, mais pour des péchés. Et nous, on dit qu'il est mort pour des problèmes. Enfin, nous.
Pas nous.
Donc, il faut qu'on lutte, qu'on fasse attention. Mais c'est très facile. Hein. Je pense que la grande, ça compte. D'autres questions, oui?
Changement d'attitude
produit du fruit digne de repentance.
Ouais. Ils l'ont pas changé partout, hein, dans la seconde 21. Ouais, ils l'ont pas changé partout, contrairement à la Summer. Ils l'ont changé à certains endroits, mais pas partout. C'est quand même réducteur, moi, je trouve. Mais étymologiquement, oui. Étymologiquement, c'est ça. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à ce qu'on saute le mot repentance dans les Bibles modernes, parce que je trouve que le mot, il n'a rien perdu de sa pertinence et de sa compréhension. Je pense que n'importe qui peut comprendre ce que c'est que la repentance et qu'un bandit repenti. À la rigueur, mettre une note de bas de page. Mais c'est un des points qui me font pas trop aimer... certains aspects de la seconde 21. Ceci étant, je trouve la seconde 21 à bien des égards une bonne traduction, notamment sur des précisions qu'ils apportent par rapport à la seconde. Tiens, on va faire un petit exercice que j'aime bien faire. Vous avez une Bible devant vous? Est-ce que certains ont la seconde 21? Est-ce que d'autres ont la seconde? Est-ce que d'autres ont la Summer? Si quelqu'un a la Summer, sortez. Non, je rigole. Si quelqu'un a une seconde 21, une seconde et une Summer, on va faire un petit test rapide. Ouvrez-moi un Corinthiens 7. J'aime bien ce passage parce que je trouve que c'est clairement révélateur de la manière dont il vous faut considérer votre lecture biblique personnelle et combien c'est essentiel d'utiliser plusieurs traductions différentes. Ok ? 1 Corinthiens 7, verset 1. Est-ce que quelqu'un a une seconde 21 ? Vas-y, seconde 21.
Je voudrais que tous soient comme moi. Mais
chacun... Non, tu lis au verset 2, là. Au verset 1. 1 Corinthiens 7, 1. Ouais. Ah oui, pardon. Décidément, ce soir, il y a Clément caché quelque part dans le passage, là, t'inquiète pas.
Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de
femme. Stop. Vous avez noté, au sujet de ce que vous avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Est-ce que quelqu'un a une version seconde? Vas-y.
De toute façon, est-ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de...
Non, ça c'est une version à la colombe, je parlais d'une seconde, nouvelle édition de Genève. Vas-y. Nouvelle édition de Genève, c'est là, ouais. Vas-y. Ah, je pense, dit Paul, qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Est-ce que quelqu'un a une semeur? Vas-y. Vas-y, et après tu pars. Hein. Ah, alors qui est-ce qui dit? C'est Paul qui dit ou c'est les Corinthiens qui disent? Que dit l'original? L'original, c'est la seconde 21 qui fera du bien. Hein? Oui, ben la Darby a dit ça aussi. Mais l'original, c'est la seconde 21 sur ce dossier qui traduit bien. La seconde 21 traduit correctement quand il dit « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme » parce que, littéralement, c'est ce qui est écrit. On n'a pas de « je dis », on n'a pas de « vous dites ». C'est là? Oui, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de « vous dites » ou de « je touche ». Tu comprends? Il n'y a pas de « vous dites » ou de « je touche ». La colombe traduit bien aussi. Ce que je veux dire, c'est que vous avez ni « vous dites » ni « je touche » dans le texte original. Non, je vais arriver. Non. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que vous regardez là, typiquement, une interprétation de la Summer. Je m'embrouille, excusez-moi, mais il y a une interprétation de la Summer qui est « vous dites ». Et le présupposé d'Alfred Kuhn et de ceux qui ont participé aux travaux d'édition de la Summer, c'est qu'il y a plusieurs interpolations de citations de Corinthiens qui transcendent toute l'épître. Donc ils le mettent un peu partout, et ils considèrent que la phrase qui est citée ici est une interpolation des Corinthiens. Sauf que ça, c'est pas une traduction. C'est une expression de leur exégèse. C'est une manifestation de leur interprétation de la Bible qu'ils ont glissé dedans. Donc c'est toujours intéressant d'avoir près de vous une version qui est votre version de tous les jours, et d'avoir une version un peu plus littérale. Sandra citait à juste titre la Darby. Elle est littérale, elle en est même rugueuse parfois, mais vous pouvez y aller avec beaucoup de confiance parce que souvent il traduit presque mot à mot. La Darby, c'est bien d'en avoir une sous la main de temps en temps.
ta question de la repentance, moi je t'encourage à relire le psaume 51 de David quand il a péché, que Nathan est venu voir, et après il exprime sa repentance, et tu vas voir les conséquences quand on parle de fruit de la repentance, ce que ça produit en lui jusqu'au témoignage, tu vas voir. Et tu compares sa repentance avec celle juste de son prédécesseur de Saül. Et tu vas voir entre la vraie repentance que Dieu attend et une fausse repentance juste de « Oh, je te demande pardon, j'aurais pas dû faire ça et puis je continue pareil. »
Sans lui, c'est juste.
Si tu te limites à ça, moi je t'emmène dans ma cité, je te montre plein de musulmans qui ont changé d'attitude. Mais c'est pas la repentance biblique en fait. C'est pas faux.
Ouais. Oui, changer d'attitude est une des conséquences de la repentance.
Ouais. Oui, clairement, ouais, c'est réducteur. Même si, encore une fois, étymologiquement, ça reste correct, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en plus on parlait de ça, l'étymologie en elle-même, ça peut fausser certaines traductions, parce que le sens d'un mot n'est pas défini seulement par son sens étymologique, mais aussi par le contexte qui l'entoure, et son usage dans la langue. Bah ouais, aujourd'hui tu penses guignol, c'est Raphaël Charrier direct, tu vois. Amen. Mentor, ça a changé,
oui. Oui, non, je dis l'usage du mot mentor a totalement changé.
Oui. Depuis à l'instant. Question suivante avant que. Parce que depuis qu'on passe. Question suivante avant qu'on se disperse. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Tu veux venir?
Par rapport à la question sur le catholicisme qui a été posée, sur l'Eucharistie, ça, en fait, par rapport à ça, il y a une base théologique que les catholiques utilisent, c'est Jean 6, si je ne me trompe pas, et ils sont tout à fait à côté. C'est ça qu'il faut peut-être utiliser quand vous parlez avec eux. Le contexte de Jean 6 ne parle pas de l'Eucharistie, il y a de la scène, c'est plutôt Matthieu 6, 1 Corinthiens 11, des textes qui sont autres que celui-là. Donc ils utilisent une base où Jésus dit, si quelqu'un ne mange pas de mon corps, ne boit pas de mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Et pas le contexte qu'on voit à la manne qui tombe du ciel, il citait Moïse, etc. Donc ça, c'est vraiment un argument que j'ai beaucoup aimé dans mon discussion avec les catholiques, que c'est faux de baser toute théologie de l'Eucharistie sur ce texte-là, alors que le contexte ne parle pas du tout de la scène. Donc le texte qui parle de la scène, c'est ceux qui savent où Jésus, donc à la veille de la Pâque, il va rassembler ses disciples, etc. Donc ça, c'est par rapport à cette idée de l'Eucharistie d'où elle vient, la transubstantiation, donc pour eux, la base sur ça. Et puis, Guillaume avait parlé de la transmission apostolique,
ouais, succession.
La succession apostolique. En fait, ce concept-là, ce qui permet bien sûr à un prêtre d'avoir le droit d'opérer le miracle. Et s'il opère un miracle, parce qu'il a reçu. En fait, l'ordonnance est un prêtre. Je pense qu'il existe, si je ne me trompe pas, trois évêques dans son ordonnance. Il faut qu'il y ait trois évêques qui ordonnent le prêtre pour que son ordonnance soit les évêques qui ont reçu la transmission ou la transmission.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est juste ça que je voulais dire.
Merci beaucoup. Hein. C'est possible hein, que l'histoire des trois évêques, c'est tout à fait le genre de truc que vous allez trouver dans le catéchisme de l'Église catholique. D'ailleurs, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse, mais si trois aveugles ordonnent un autre aveugle, alors là, je vous raconte pas. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont se planter. Hein. Autre question ou remarque ? Dans Jean 6, ils extraient les versets 53 à 56 du contexte. C'est ce que dit Belka. C'est Jésus qui dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas être sauvé en quelque sorte, tu vois. Si tu relis le contexte, c'est un contexte bien particulier. Déjà, il y a eu la multiplication des pains au début du chapitre, pour commencer. Ensuite, il a traversé l'eau, en marchant sur l'eau. Et les gens qui l'ont vu traverser, ils ont fait le tour du lac pour le suivre. Ou certains ont pris des barques. Ils l'ont rejoint. Et une fois qu'ils l'ont rejoint, ils lui posent un certain nombre de questions, notamment sur son autorité. Jésus, il commence par leur faire un reproche en leur disant « Vous êtes venus à moi non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que je vous ai rempli le ventre, en quelque sorte. » Et ensuite, il s'est pas fié du tout à leur foi. Il a un petit peu ce que montrait ce soir Alex. Il a vu en eux une fausse foi. Et ensuite, il va commencer à leur parler d'un certain nombre de choses. Alors, la première question qu'ils vont lui poser, c'est « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et la première chose qu'il dit, c'est « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc, il est en train de leur montrer que le miracle de la multiplication des pains pointait vers lui qui était envoyé. Et ensuite, par une alternance d'éléments métaphoriques et non métaphoriques, métaphore, c'est-à-dire une image, il va commencer à leur parler de la vraie manne qui descend du ciel. Parce que eux demandaient un signe identique à celui de Moïse, le pain qui descend du ciel. Et en les amenant à cela, il va commencer à les amener à réfléchir sur quelle est cette vraie manne qui descend du ciel. Et en fait, la réponse qu'il donne, c'est « Je suis le pain de vie ». Moi, Jésus-Christ, la parole, je suis le pain qui descend du ciel. Et en fait, il commence petit à petit à introduire une métaphore et en expliquant pour finalement en arriver au verset 53 en disant « Si vous ne me mangez pas, vous ne vivrez pas ». Mais au verset 46, si ma mémoire est bonne, j'espère ne pas me tromper de verset, il dit « Je suis le pain de vie, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. C'est celui qui croit qui est au bénéfice du pain de vie. Et c'est pas celui qui boit. » Non, c'est pas celui qui boit, c'est celui qui croit, et c'est celui qui vient à Christ, et non celui qui mange, qui est sauvé. Donc il utilise le pain et le breuvage, mais il n'utilise pas boire et manger. Il utilise croire et venir. Donc petit à petit, il introduit la métaphore, mais il ne vient pas faire une comparaison entre son corps et ce qu'il y a à manger, en fait. Va voir l'article qui est paru sur mon blog hier. Tout ça, c'est très bien expliqué. Non, mais c'est vrai, j'ai... Tout ce que dit Belka, c'est... Ouais, je sais, c'est long. Bah, en même temps, je suis désolé, ça décourage. Mais...
Je pense qu'il faut qu'on respecte
Non, en fait, il y a une chose dont je voulais un dernier conseil. Quand vous évangélisez, que vous témoignez à quelqu'un, soyez patient. Et ça va peut-être vous sembler très calculateur ce que je vais vous dire, mais laissez-le se mettre à découvert. Éprouvez lui-même ses idées. J'ai croisé récemment, non, c'était un petit moment avec mon ami Ricardo, que je pense pas mal d'ici connaissent. On était dans la rue, on se baladait, on allait prier tous les deux, et on priait pour que le Seigneur nous donne des occasions de témoigner. Et mince, deux mormons nous accostent. Oh non. Et du coup, on a commencé à discuter. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, écoutez, parce que ça commençait à partir à bâton rompu. Et en fait, on a dit, bon, on vous laisse 5 minutes et on s'engage vraiment à vous écouter et pas vous couper la parole et vous nous expliquiez vraiment le fond de votre pensée, de vos arguments. Et en fait, ils ont tenu 40 secondes parce que leur théologie est complètement creuse et bancale. Il y a un discours qui est stéréotypé, une machine qui parle comme à une autre machine presque. Et une fois qu'ils ont présenté leur truc, on a pu nous développer derrière et ils avaient en fait pas de réponse à ce qu'on a dit.
Mais c'était
des mormons. Après, si quelqu'un vous dit voilà, mais il faut la souffrance pour qu'il n'y ait pas de souffrance ou je sais pas, trucs comme ça. Ok, d'accord, ça a l'air super intéressant. J'aimerais comprendre, parce que je comprends absolument pas. Je te coupe pas la parole.
vas-y, démontre-moi cette vérité. Je te laisse vraiment aller jusqu'au bout. Vous allez voir, le discours, c'est comme ça, c'est tout. Et en général, il n'y a pas d'argument. Vous vous souvenez, souvent, l'agressivité ou la chose qui est lancée au lance-pierre, c'est révélateur d'une incapacité à formuler une alternative cohérente et solide. Et en général, un athée l'est par défaut parce que c'est comme ça, et laissez-lui expliquer. Alors explique-moi par exemple la cause de l'univers, explique-moi d'où vient la vie, et explique-moi véritablement le Big Bang et l'évolution, s'il te plaît. Et ils croient à l'évolution, mais ils connaissent très peu. Donc laissez le temps. Souvent, on va vite tout de suite répondre, on est stressé vite, qu'est-ce que je vais dire. Laissons le temps, surtout si quand c'est vos amis au quotidien, et vraiment intéressez. Je dis pas ça uniquement dans un esprit de manipulation, mais vraiment s'intéresser à ce que croit l'autre, ça va vous aider à comprendre vraiment qui il est, en quoi il place sa confiance, qu'est-ce qu'il aime, hein, et en quoi est sa sécurité, qu'est-ce qu'il espère, et tout ça. C'est déceler vraiment les choses.
Oui. Non mais vas-y, hein. Quelqu'un qui te dit je n'espère en rien.
Oui. Alors, pour moi, vous vous souvenez, c'est invalidé au niveau pragmatique. C'est-à-dire que la personne fait des choses qui ont du sens. Si pour elle rien n'a de sens, par exemple, pourquoi vous sortez à lui? Ou qu'est-ce qu'elle veut dire en fait par sens? Est-ce que c'est un sens, j'ai envie de dire, d'une direction, d'un but, d'une finalité? Qu'elle pense qu'il n'y a pas de sens, c'est une hypothèse, mais si elle ignore le sens, elle peut être ouverte à ce qu'on lui explique. Souvent, quand on dit « il n'y a pas de sens », c'est qu'on veut dire que ça va mal et qu'il n'y a pas de solution. Ça, j'en suis convaincu. C'est pas dans le sens métaphysique qu'on est là comme ça. Si ça n'a pas de sens, tu restes assis. Et de toute façon, d'un point de vue pragmatique, la personne se lève le matin, elle prend son petit déjeuner, elle sort, elle va au travail, elle a des enfants, elle a envie d'aimer, elle a envie, voilà. Il y a des choses qui ont du sens pour elle. Et en tout cas, elle se lance dedans avec du sens. Sinon, si ça n'a pas de sens, ok, peut-être qu'elle se lèverait, elle mangerait des cailloux. Elle voudrait se marier avec une chèvre et elle rêverait d'avoir un petit singe comme enfant. Enfin, vous voyez, d'un point de vue pragmatique, c'est...
Personnellement, des gens comme ça, on peut en rencontrer de différentes sortes. Je crois que c'est vraiment ça en fait ce que j'ai dit. Mais moi, j'utilise un argument presque toujours le même avec des personnes comme ça. C'est un argument de C.S. Lewis. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. C'est l'argument qui consiste à montrer que notre insatisfaction et notre manque de sens sur cette terre prouve l'existence de Dieu. Ça commence toujours comme ça. Est-ce que vous êtes... C'est une dame ou c'est un monsieur? Un monsieur. Est-ce que vous êtes insatisfait, monsieur? Est-ce que cette vie ne vous satisfait pas? Ben non, elle ne me satisfait pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les expériences que vous avez pu faire jusqu'ici, dans lesquelles vous recherchez le bonheur et la satisfaction, ne vous ont pas satisfait? Ben non, ça m'a pas satisfait. Franchement, entre vous et moi, l'univers, pour vous, c'est une tromperie. Vous vous dites, il n'y aura aucune expérience qui pourra jamais me satisfaire. Ça n'a aucun sens. C'est ça que vous voulez me dire, monsieur? Oui, ça n'a aucun sens. Mais monsieur, c'est pas forcément que l'univers est une tromperie. Parce que les désirs existent, parce que la chose sur laquelle les désirs se focalisent existe également. Par exemple, un canard, coin coin, un canard désire nager, eh ben l'eau elle existe. J'ai faim, la nourriture existe. Le désir sexuel me tenaille, la sexualité existe. Bien sûr dans un certain cadre, mais elle existe. Ça veut dire que chaque chose qui existe a son pendant en termes de fait pour l'assouvir. Mais si je découvre en moi une expérience enfin, si je découvre vraiment un désir, pardon, qu'aucune expérience humaine ne peut satisfaire, est-ce que l'explication la plus plausible, ce ne serait pas que j'ai été créé pour un autre monde, spirituel et éternel, et qui existe? Ok? Ça, c'est un argument très très bon. Lisez Les Fondements du Christianisme de C.S. Lewis. Vous allez avoir plein de petits arguments comme ça, qui vont vous plaire.
J'utilise souvent, moi, merci de rappeler, les noces de Cana. C'est un exemple parfait, et d'ailleurs, j'avais fait les noces de Cana, hein, quand j'étais venu. Non, je ne connais pas, parce que c'est super. Les noces de Cana, où en fait, les gens sont satisfaits de choses, en fait, et du coup, ça génère une satisfaction. Et Jésus est venu montrer que vous pouvez satisfaire pleinement les besoins de l'homme.
Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? Et là, il enchaîne, il dit, là, du coup, si on est créé pour un monde
Non, mais ce que je veux dire, c'est là, il s'agit de préciser ce qu'on entend par spirituel, parce que c'est un monde qui existe. Quand on parle de spirituel, on veut faire référence au monde à venir, tu vois. Mais même si tu précises pas le mot spirituel, à la rigueur, précise autre monde, il aura compris à quoi tu fais référence, tu vois. C'est sûr que là, j'ai cité Lewis, en fait, qui, dans le contexte, donne un sens bien précis à ce mot. Mais on est fait pour un autre monde, en gros, tu vois. On n'est pas fait pour vivre dans un monde tel qu'on le vit aujourd'hui. On est forcément dans une tente, comme dit Paul. À un moment, la tente, elle s'envole. Hein.
Souvent, il y a une vision dualiste entre la matière, ce qui est matériel et ce qui est spirituel. C'est le mythe de la caverne, quoi. Le monde sensible et le monde intelligible. Et du coup, pour les gens, tout ce qui est matière, pour certaines personnes, tout ce qui est matière, tout ce qui est matériel est mauvais. Et le spirituel est bon. Et l'homme doit entrer en lui-même pour découvrir quelque chose de spirituel qui n'est pas matériel. Or, la matière, la création, le monde matériel en soi n'est pas mauvais. La création était bonne. Et on a créé un dualisme où on pense que ce qui est spirituel est bon et ce qui est matériel est mauvais. Parce qu'il y a de la souffrance. Non, c'est tordu, c'est entaché, mais fondamentalement, c'est bon.
Lisez Les Fondements du Christianisme. Sérieux, ça va vous faire du bien. C'est un super bouquin. Non, 200, 250, je crois. Non, c'est très facile d'accès, très simple. Comme l'article, quoi. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, ou est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce qu'on se dit bonne nuit, on se fait la bise, on rentre chez nous, ou comment vous voyez les choses? Pas de questions sur la loi? Je suis surpris. Ouais, demain, à mon avis, comme par hasard, tu seras parti, toi. Oui, Marianne.
Alors, oui et non, parce que, si vous voulez, dans le cœur de l'homme, on voit qu'il y a il y a des valeurs qui sont universelles. Une loi qu'on dit universelle, comme ce que j'avais dit un petit peu tout à l'heure, c'est que un enfant, on n'a pas besoin de lui apprendre à mentir, on n'a pas besoin de lui apprendre à dire non. C'est-à-dire que c'est inné. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est lié à ça transcende en fait l'intellect, ça transcende même que c'est un héritage qui est en nous et qu'on ne peine même pas à manifester, mais qui est déréglé. Donc bien sûr que il y a certaines moralités, certaines choses qui existent en nous qui viennent de cette loi-là, mais d'autres qui sont l'hérédité du péché qui est en nous également, qui exerce une dualité avec cette on voit la ruine qui prend son sens. D'accord?
Tu peux trouver une illustration qui est un fait, hein, mais qui illustre bien ce qui s'est passé après la chute. Dieu a mis en Adam la loi dans son cœur, et au moment de la chute, il y a eu comme quelque chose qui a brisé, fêlé cette loi qui était dans le cœur. C'est ce que tu vois aussi dans Exode 32. Moïse reçoit les tables sur la montagne, il descend de la montagne, le peuple s'est prostitué, s'est corrompu, donc c'est une réminiscence de la première idolâtrie en fait, hein, c'est une deuxième idolâtrie qui se passe avec le veau d'or. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que Greg Beale a écrit un bouquin qui s'appelle « Nous devenons ce que nous adorons, we become what we worship ». Et en fait, il montre que finalement, tous les phénomènes d'idolâtrie dans la Bible sont une réminiscence du veau d'or, en fait, qui lui-même est une réminiscence de la première idolâtrie, la chute. Et tu vois bien que dès qu'il descend, que le veau d'or est là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il jette les tables par terre, et les lois sont brisées, tu vois. C'est l'image de ce qui s'est passé à la création. La loi dans le cœur a été fêlée, brisée, de sorte qu'aujourd'hui, elle est universelle, elle est partout, tu la retrouves en tout lieu, même chez des gens qui n'ont jamais entendu la loi et l'évangile. Mais la finalité, c'est qu'elle est là. Il y a des commandements moraux, tout le monde sait qu'il le transgresse s'il y touche, tu vois. Ouais, tout à fait, monsieur. On vous invite pour faire une conférence. Ok, 22h20, on termine ici. Ouais, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de prier? Je sais pas qui veut.